Merci d'écouter Radio Capi, c'est l'heure de vous informer.
Radio Capi. Oh, Capi.
Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, des affrontements au poste depuis hier mardi en Ituri. Les FRDC à la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, à Jina, une quarantaine de kilomètres au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Certaines sources évoquent une dizaine de morts, mais l'armée affirme n'avoir enregistré aucune perte dans ses rangs. Au Nord Kivu, la riposte contre Ebola reste confrontée à une forte résistance communautaire à Butembo, pourtant devenue l'épicentre de l'épidémie dans la province. L'ONG locale Redo demande l'ouverture d'enquêtes judiciaires sur l'incendie des structures sanitaires et la prise pour cible des agents de santé par des jeunes et des personnes inconnues. L'invité de ce journal est le secrétaire exécutif du Corridor Central, Maître Flory Okundji. Il revient sur les enjeux du partenariat entre le Corridor Central et le gouvernement provincial du Maniema. Merci d'être avec nous et bienvenue à l'écoute de ce journal. En Ituri, des affrontements opposent depuis mardi les FRDC à la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, dans le groupement de Jina, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Le bilan reste difficile à établir. Si certaines sources évoquent une dizaine de morts, l'armée affirme n'avoir enregistré aucune perte dans ses rangs. Les combats ont également provoqué le déplacement de nombreux habitants. Le point avec Isaac Remoyope.
Les affrontements ont éclaté mardi matin près du village de Liko dans le groupement de Jina. Selon des sources sécuritaires, des militaires des FARDC, en patrouille après des coups de feu attendus dans la nuit, sont tombés sur des éléments de la Convention pour la Révolution Populaire, la CRP, installée dans la zone. Des échanges de tirs ont alors opposé les deux camps durant une bonne partie de la journée. D'après les mêmes sources, les FARDC ont d'abord repoussé les miliciens avant que ces derniers ne se réorganisent à fin de la journée pour lancer une contre-offensive. Les bilans de ces affrontements restent pour l'heure controversée. Certaines sources font état d'au moins 11 morts et de plusieurs armes récupérées sur les champs de bataille, y compris du matériel appartenant à l'armée. De leur côté, des sources militaires assurent qu'aucun soldat des FARDC n'a été tué, tout en reconnaissant que des combattants de la CRP ont été blessés. Sur le plan humanitaire, de nombreux habitants du groupement de Diropa ont fui le combat pour trouver refuge à la base de la MONUSCO. La peur des nouveaux affrontements continue de régner dans cette partie du territoire de Djougou. Il convient de rappeler que la CRP avait annoncé en mai dernier un cessez-le-feu unilatéral afin de donner une chance au processus de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Et pendant ce temps, au Nord Kivu, les femmes de l'Est de la RDC réclament une participation effective à toutes les initiatives liées au processus de paix et au mécanisme de suivi du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la FCM-23. Elles ont lancé cet appel hier mardi à Goma, à l'issue du Forum national sur la participation des femmes au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. La rencontre hybride a été organisée en présentiel et en ligne par la section genre de la MONUSCO. Bernard Nyangui pour les détails.
À l'issue de cette rencontre qui a réuni des représentants de la société civile, de femmes leaders, des jeunes ainsi que des experts des Nations Unies basés à Goma et à New York, les participants ont insisté sur la nécessité d'associer davantage les femmes, notamment celles du Nord Kivu et de l'Ituri, au processus de paix et au dialogue national en préparation. Isabelle Pendeza est présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED.
Pour que la paix se construise, ça demande d'écouter les différentes parties au conflit et nous, en tant que femmes, nous ne devons pas être seulement des observatrices. Nous avons besoin que la voix de la femme soit écoutée et respectée.
Pour Kassimi Bamba, responsable de la cellule d'accompagnement du mécanisme de suivi des cessez-le-feu à la MONUSCO, l'importance de la participation des femmes à la réussite de ces dispositifs intégrés au mécanisme congé de vérification élargi plus de la CRGL est nécessaire.
Intégration d'organisations féminines, peut-être pas en tant que membres, mais en tant qu'acteurs pouvant apporter des informations, des contributions à ce mécanisme-là, peut permettre de réduire cette asymétrie d'informations, que les dispositions puissent être prises afin de désamorcer les crises.
Viviane Van de Peyre, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies à la MONUSCO, a assuré que les recommandations issues de ce forum seront relayées auprès des instances concernées.
Et par ailleurs, près de 1300 personnes déplacées, retournées et autres personnes affectées par le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo ont bénéficié d'une assistance financière dans le territoire de Bounia au Maniema. Cette aide est fournie par l'ONG Terre Fonde en partenariat avec le bureau diocésain de développement communautaire de l'église anglicane de Kindu, grâce à un financement du fonds humanitaire RDC. Chaque bénéficiaire a reçu l'équivalent de $160. Il salue une assistance qu'il juge opportune au regard des difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Florence Kizalunga, reportage.
Le 1309 bénéficiaires de cette assistance proviennent des 5 aires de santé du territoire de Pounia. Au nom des bénéficiaires, la société civile de Pounia remercie les partenaires humanitaires pour ce soutien. Elle estime néanmoins que le besoin reste important, notamment dans les secteurs de la santé. Jean-Claude Ngoï Bela Bela.
Il y a beaucoup de problèmes à Pounia, il y a beaucoup de crises, surtout actuellement avec la situation des rougeoles, là où chaque jour il y a les taux élevés de mortalité des enfants.
Les responsables du projet assurent pour leur part que d'autres activités humanitaires sont en cours au profit des communautés concernées. Pierre Kabe Mukunda.
Il y a plusieurs activités, entre autres l'aménagement des sources d'eau potable, la promotion des sensibilisations des bonnes pratiques d'hygiène familiale, l'identification des bénéficiaires des kits ENFI, la distribution des kits hygiéniques aux femmes en âge de procréer et ensuite des évaluations.
Cette assistance s'inscrit dans le cadre du projet de réponse d'urgence à hygiène, assainissement et assistance monétaire mise en œuvre en faveur des populations affectées par la crise dans cette partie du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, la riposte contre Ebola reste confrontée à une forte résistance communautaire à Butembo. Alors que la ville est devenue l'épicentre de l'épidémie dans la province, des structures sanitaires sont incendiées et des agents de santé pris pour cible par des jeunes et des personnes inconnues. L'ONG locale REDO, les réseaux pour les droits de l'homme, demandent l'ouverture d'enquêtes judiciaires. Des détails avec Marcel Papimukeba.
Si Butembo a désormais dépassé les 300 cas confirmés d'Ebola et compte plus de 209 décès selon les données de la riposte, la résistance communautaire continue de compliquer la lutte contre la maladie. Les réseaux pour les droits de l'homme, RIDO, affirment que plusieurs incidents visant les équipes et les structures sanitaires sont enregistrés presque quotidiennement. Son coordonnateur, Mouindo Wasivinwa.
Plusieurs incidents d'agression des agents et incendies des structures sanitaires sont enregistrés presque que chaque jour à ville de Butembo. 4 structures sanitaires ont été incendiées et plus de 7 tentatives à empêcher. Les RDO regrettent la résistance de certaines personnes qui est à la base de cette criminalité, au risque de la persistance de la maladie dans la zone. Au service de sécurité et instance judiciaire, les dirigeants des enquêtes pour que les auteurs des dégâts soient jugés à procédure de flagrance.
Butembo est un important centre commercial du Nord Kivu où transitent chaque jour des milliers de personnes. Cette forte mobilité est un enjeu majeur pour le contrôle de l'épidémie. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Une mauvaise condition de travail, plus de 20 ans sans promotion en grade, réduction des écarts de primes de risque entre les catégories professionnelles du ministère de la Santé, les syndicats des biologistes médicaux Synobium montent au créneau. Dans une conférence de presse hier mardi à Kinshasa, ces prestataires de laboratoires médicaux et des banques de sang de la RDC affirment avoir été également ignorés dans les travaux de la sous-commission des médecins dont ils sont membres. Cela en rapport avec leur alignement au troisième trimestre. Écoutez à ce sujet les explications de Biko Makubikwa, secrétaire général du Synobium.
Le gouvernement sait bien que cette sous-commission n'est qu'un sous-ensemble de la commission interministérielle de la santé dont nous sommes membres. Ce qui fait comprendre que ces résultats sont issus de la dernière grève des médecins. Les points essentiels suivants doivent être pris en compte. Alignement à la prime de risque des prestataires de laboratoires de biologie médicale au T3 et T4 2026. La mécanisation au salaire au T4 2026. La promotion en grade qui tarde depuis plus de 20 ans, malgré les dernières promesses du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. La réduction des écarts des primes de risque entre les catégories professionnelles du ministère de la Santé.
Biko Makubikwa, secrétaire général du Synobium, au micro de Radio Okapi. Et puis le gouvernement souminois décide de rompre avec la répartition par quota politique, privilégiant désormais les mérites, la compétence, la transparence dans la gestion des entreprises publiques. C'est dans ce cadre qu'il a lancé, via le ministère du portefeuille, un processus compétitif de sélection des mandataires publics dans 15 entreprises de l'État. Dans un communiqué parvenu ce mercredi à Radio Capi, la ministre du portefeuille précise que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 août 2026. Plus de détails avec vous, Blaise Donga Lamayanda.
Dans ces documents, La ministre du portefeuille explique que les candidats doivent notamment être de nationalité congolaise, âgés d'au moins 25 ans au 31 décembre 2026, sans dépasser 70 ans à cette même date. Elle invite les personnes remplissant les critères à finaliser leur candidature dans les délais impartis et à s'assurer que leur dossier est complet avant validation. Les processus recherchent des profils présentant une bonne moralité, une réputation professionnelle irréprochable, ainsi que des compétences techniques, intellectuelles et managériales. Les candidats doivent également justifier d'une expérience avérée dans les secteurs concernés, maîtriser le français oral comme écrit et disposer d'une connaissance des outils informatiques de base. Les candidatures se font en ligne sur les sites officiels du ministère du portefeuille www.portefeuille.gouv.cd. Les candidats doivent cliquer sur postuler, remplir le formulaire en ligne et joindre les documents requis. Après validation, il doit télécharger son accusé de dépôt. L'évaluation se déroulera en 4 étapes éliminatoires, à savoir vérification de l'éligibilité, analyse du dossier, épreuve écrite, puis entretien devant un panel d'experts chargés d'apprécier les compétences comportementales des candidats.
Un nouvel accident sur la nationale numéro 1 dans la ville de Kenge. Bilan 4 morts. Drame survenu dans la soirée de lundi dans cette partie de la province du Kwango. À l'origine, deux motos sont entrées en collision dans un virage. La présence d'un gros véhicule en panne sur la chaussée a gêné la circulation de ces engins. Les deux conducteurs et les deux clientes sont morts sur place. C'est le deuxième accident en moins de 2 semaines. Le maire de la ville de Kenge évoque le non-respect du code de la route parmi les causes de tous ces désastres. Noël Kouketouka est joint au téléphone par notre correspondant de la radio Bandundu Développement, Jean-Claude Tangamou.
Il y a 4 morts. 2 motos sont entrées en collision. Une moto tricycle et une moto à 2 roues. La moto à 2 roues montait de Bakali vers la ville de Kenge et il y a eu un véhicule qui était derrière l'une des motos. Voulant éviter le véhicule qui venait à vive allure, le motard a esquivé. À cet endroit, il y a un ancien gros véhicule qui est stationné là-bas, qui est en panne. L'endroit s'est rétréci. C'est comme ça que les deux motos sont entrées en collision. La cause est multiple. Premièrement, la majorité des véhicules circulant sur la RN, ce sont des véhicules qui n'ont pas de niveau technique requis. Deuxièmement, le conducteur ne respectant pas le code de la route. Troisièmement, les vitesses ne sont pas respectées. Et quatrièmement, là, ça nous revient, nous, l'État, c'est l'État de la route.
Et d'autre part, à Bukavu, les ambulanciers ne sont pas épargnés par les embouteillages récurrents qui paralysent la circulation dans les chefs-lieux de la province du Sud-Kivu. La présence des camions remorques et leur mauvais stationnement en pleine journée figurent parmi les principales causes de ces blocages. Parmi les endroits les plus affectés, la société civile de la commune d'Ibanda cite notamment les axes Kibongé, Essence Major Vangu, ainsi que l'axe Place de l'Indépendance, Hôpital Général. Son président appelle à des sanctions contre ceux qui violent les codes de la route. Murula Mashimbiko est au téléphone de Ronelin Tibonera.
La police a un grand rôle à jouer pour combattre aussi les embouteillages et sanctionner les chauffeurs qui font ces mauvais stationnements. Si rien n'est fait, vous allez trouver que nous allons continuer toujours à souffrir, surtout nous, les piétons, même les ambulances qui vont dans l'urgence pour sauver les malades ou pour transférer les malades aux différents hôpitaux. Donc c'est une urgence que la police routière joue bien son rôle, c'est une urgence que les chauffeurs respectent les codes de la route, c'est une urgence que les maires aussi s'impliquent en dialoguant avec les responsables de ces camions ou les responsables de l'organisation de ces chauffeurs, pour qu'on puisse trouver une solution dans l'urgence pour que ces chauffeurs puissent respecter les codes de la route et les lieux de stationnement.
Actualité internationale.
Au Nigeria, 10 officiers de police, 2 civils et 17 bandits présumés ont été tués hier mardi lors d'affrontements entre les forces de sécurité et un important groupe d'hommes armés à la frontière entre l'état de Zamfara et celui de Kebbi. Des renforts policiers et militaires ont été déployés il y a quelques jours dans le nord-ouest du Nigeria pour tenter d'entraver les activités des bandits. Et puis la normalisation des relations s'accélère entre l'Algérie et le Mali. Le premier ministre Sifi Grieb a invité dimanche dernier son homologue malien, le général de division Abdoulaye Maïga, à effectuer une visite en Algérie lors d'un entretien téléphonique. Selon les communiqués algériens, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de dynamiser les relations bilatérales et de revitaliser la coopération dans divers domaines.
L'invité.
L'invité de ce journal est le secrétaire exécutif du Corridor Central, Maître Flori Okandjou. Il revient sur les enjeux du partenariat que le Corridor Central et le gouvernement provincial du Maniema ont signé dernièrement. Ces mémorandums d'entente portent sur la construction d'une barge de fret de fluviale de 500 tonnes ainsi que d'un bateau pousseur. Ces projets visent à améliorer les transports de marchandises et à renforcer la connectivité entre Kindu au Maniema et Ubundu dans la province de la Tchopo. Maître Flori Okandjou répond aux questions de Florence Kizalunga.
Maître Flori Okandjou, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Vous êtes pour la énième fois dans la province du Maniema avec une grande délégation de la République unie de la Tanzanie. Cette fois-ci, vous venez de signer un mémorandum d'attente relatif à la construction d'une barge de marchandises de 500 tonnes et d'un bateau pousseur. Qu'est-ce qui est visé? L'objectif derrière cette vision, c'est quoi?
Merci beaucoup Madame Florence. D'abord, les objectifs du corridor central, c'est la facilitation du commerce et des transports de transit à partir du port de Dar es Salaam vers les pays membres de l'organisation qui n'ont pas accès direct à la mer et de ces pays vers les ports de Dar es Salaam. En organisant le financement de ce projet pour la province de Maniema, l'objectif principal reste l'amélioration du transport de transit à partir de la ville de Kindu jusqu'au port de Dar es Salaam via la ville de Bundu et de Kisangani et puis vous traversez le territoire ougandais, vous êtes en Tanzanie. Le deuxième objectif, c'est désenclaver évidemment la province du Maniema. Vous savez, la province du Maniema se trouve au est-centre de la République démocratique du Congo et ne partage aucune frontière avec les pays frontaliers, ce qui fait que le commerce, il est difficilement pratiqué ici dans cette province si ce n'est qu'en passant par les autres villes et ou les autres provinces de la République démocratique du Congo.
Ce projet est entièrement financé par les corridors centraux. Peut-on savoir à quelle hauteur?
Oui, merci. Nous avions reçu les devis de la province du Maniema. Ils nous ont proposé un devis de 370 000 dollars, disons. Et au niveau du secrétariat, nous avons arrondi à 400 000 dollars parce qu'on a estimé peut-être que les 370 000 ne reflèteraient pas la réalité du budget et nous avons donc anticipé en arrondissant carrément leur budget à 400 000 dollars. Américain. Et puis, il y a 50 000 dollars que le secrétariat a ajouté sur ce budget, ce qui donne un total de 450 000. Au total, à ce jour, nous avons mis à part un budget de 450 000 dollars pour le financement de cette barge, et les pousseurs y compris.
Vous étiez dans le projet des chemins de fer à écartement standard, et aujourd'hui, vous basculez vers la construction d'une barge. Et ce projet, pendant combien de temps peut-on espérer avoir ça?
Oui, nous étions, mais nous sommes toujours en train de développer les projets des chemins de fer électrifiés à écartement standard entre la Tanzanie, le Burundi et la RDC. De la section Burundi-RDC, les études de faisabilité sont en cours et nous espérons avoir terminé ces études avant la fin de cette année civile. Alors, vous dites que nous avons basculé maintenant vers la construction de la barge. Je dois vous rappeler que le Corridor Central, c'est une organisation multimodale. Donc, nous faisons la multimodalité pourvu que cette multimodalité nous permet de désenclaver les territoires membres de notre organisation. Donc, si nous faisons les projets de chemin de fer électrifié à écartement standard, ça c'est à moyen et à long terme. Mais maintenant, ici, présentement, à court terme, nous avons besoin des actions qui vont devoir déjà anticiper l'arrivée de ces projets de chemin de fer ici dans la ville de Kindu. Et c'est comme ça que nous finançons la construction de cette barge. Maintenant, combien de temps? En ce qui concerne la barge, je dois vous dire que nous avons signé le mémorandum d'entente pour 2 ans. Mais la construction de la barge et du pousseur ne prendront pas 2 ans. C'est juste pour des raisons de précaution que nous avons mis une durée de 2 ans. Mais nous espérons que nous pouvons terminer la construction de la barge et du pousseur d'ici décembre 2026, sinon avant la fin de juin 2027.
Selon vous, l'argent pour ces projets est disponible. Que dire alors de l'entrepreneur ou la société qui va exécuter ces projets?
Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Nous, notre souhait, c'est que le gouvernement provincial ainsi que toute l'équipe des experts qui environnent ces gouvernements puissent s'approprier les projets, puissent mettre la main sur la pâte, puissent apporter leur expertise. Nous avons besoin des concours de tout le monde, de toutes les parties prenantes, RVF, SNCC, les services de sécurité, j'en passe, afin de concourir à la mise en œuvre de ce projet jusqu'à son achèvement. C'est que le gouvernement, ayant constaté l'attente si grande de sa population, nous faisons le plaidoyer pour que le gouvernement provincial puisse accélérer le processus de passation des marchés. Parce qu'il faut dire que nous avons les fonds, mais la partie technique, elle sera gérée par la province du Maniema.
Maître Flori Okandjo, merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence.
Et c'était l'invité de ce journal, le secrétaire exécutif du Corridor Central, Maître Flori Okandjo, qui s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Alain Irung, Pierre Diassinois, la mise en onde. À vous infiniment merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité de les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Capi.